Pendant qu'on disputait ainsi, il partit de la lumière un trait de feu si éblouissant que tout le monde se sauva en jetant de grands cris. Nourounihar fit aussi quelques pas en arrière. Bientôt, elle s'arrêta et s'avança du côté du phénomène. Le globe s'était fixé dans le vallon et y brûlait dans un majestueux silence. Nourounihar, croisant alors les mains sur sa poitrine, hésita quelques moments. La peur de Gulchenrouz, la solitude profonde où elle se trouvait pour la première fois de sa vie, le calme imposant de la nuit, tout concourait à l'épouvanter. Plus de 1000 fois, elle fut sur le point de s'en retourner, mais le globe lumineux se retrouvait toujours devant elle. Poussée par une impulsion irrésistible, elle s'en approcha au travers des ronces et des épines, et malgré tous les obstacles qui devaient naturellement arrêter ses pas. Lorsqu'elle fut à l'entrée du vallon, d'épaisses ténèbres l'environnèrent tout à coup, et elle n'aperçut plus qu'une faible étincelle qui était fort éloignée. Le bruit des chutes d'eau, le froissement des branches de palmiers et les cris funèbres et interrompus des oiseaux qui habitaient les troncs d'arbres, tout portait la terreur dans son âme. À chaque instant, elle croyait fouler aux pieds quelques reptiles venimeux. Les histoires qu'on lui avait contées des dives malins et des sombres goules lui revinrent dans l'esprit. Elle s'arrêta pour la seconde fois, mais la curiosité l'emporta encore et elle prit courageusement un sentier tortueux qui conduisait vers l'étincelle. Jusqu'alors, elle avait su où elle était. Elle ne se fut pas plus engagée dans le sentier qu'elle se perdit. « Hélas !» disait-elle. Que ne suis-je dans ces appartements sûrs et si bien illuminés où mes soirées s'écoulaient avec Gulchenrouz? Cher enfant, comme tu palpiterais si tu errais comme moi dans ces profondes solitudes! En parlant ainsi, elle avança toujours. Soudain, des degrés pratiqués dans le roc se présentèrent à ses yeux. La lumière augmentait et paraissait sur sa tête au plus haut de la montagne. Elle monta audacieusement les degrés. Lorsqu'elle fut parvenue à une certaine hauteur, la lumière lui parut sortir d'une espèce d'antre. Des sons plaintifs et mélodieux s'y faisaient entendre. C'était comme des voix qui formaient une sorte de chant, semblable aux hymnes qu'on chante sur les tombeaux. Un bruit, comme celui qu'on fait en remplissant des bains, frappa en même temps ses oreilles. Elle découvrit de grands cierges flamboyants, plantés çà et là dans les crevasses du rocher. Cet appareil la glaça d'épouvante. Cependant, elle continua de monter. L'odeur subtile et violente qu'exhalaient ces cierges la ranima et elle arriva à l'entrée de la grotte. Dans cette espèce d'extase, elle jeta les yeux dans l'intérieur et vit une grande cuve d'or remplie d'une eau dont la suave vapeur distillait sur son visage une pluie d'essence de rose. Une douce symphonie résonnait dans la caverne. Sur les bords de la cuve se trouvaient des habillements royaux, des diadèmes et des plumes de hérons, toutes étincelantes d'escarboucles. Pendant qu'elle admirait cette magnificence, la musique cessa et une voix se fit entendre, disant « Pour quel monarque a-t-on allumé ces cierges, préparé ce bain et ces habillements qui ne conviennent qu'aux souverains, non seulement de la terre, mais même des puissances talismaniques ?» C'est pour la charmante fille de l'émir Fakhreddin, répondit une seconde voix. Quoi ? Repartit la première. Pour cette folâtre qui consume son temps avec un enfant volage, noyé dans la mollesse, et qui ne fera jamais qu'un mari pitoyable ? Que me dis-tu ? Reprit l'autre voix. Pourrait-elle s'amuser à de telles niaiseries quand le calife brûle d'amour pour elle ? Le souverain du monde, celui qui doit jouir des trésors des sultans pré-adamites ? Un prince qui a 6 pieds de haut et dont l'œil pénètre jusqu'à la moelle des jeunes filles? Non, elle ne saurait rejeter une passion qui la comble de gloire et elle méprisera son joujou enfantin. Alors, toutes les richesses qui sont en ce lieu, ainsi que l'escarboucle de Jamshid, lui appartiendront. « Je crois que tu as raison, » dit la première voix, « et je vais à Istakhar préparer le palais du feu souterrain pour recevoir les 2 époux. » Les voix cessèrent, les flambeaux s'éteignirent, l'obscurité la plus épaisse succéda à la rayonnante clarté, et Nourounihar se trouva étendue tout de son long sur un sofa dans le harem de son père. Elle frappa des mains, et aussitôt accoururent Gulchenrouz et ses femmes, qui se désespéraient de l'avoir perdue, et avaient envoyé les eunuques pour la chercher partout. Shaban parut aussi et la gronda d'importance. « Petite impertinente, disait-il, ou vous avez de fausses clés, ou vous êtes aimée de quelques djinns qui vous donnent des passe-partout. Je vais voir quelle est votre puissance. Entrez vite dans la chambre aux deux lucarnes et ne comptez pas que Gulchenrouz vous y accompagne. Allons, marchez, madame, je vais vous y enfermer à double tour. » À ces menaces, Nouronnihar leva sa tête altière et ouvrit sur Shaban ses yeux noirs, beaucoup agrandis depuis le dialogue de la grotte merveilleuse. « Va, lui dit-elle, parle ainsi à des esclaves, mais respecte celle qui est née pour donner des lois et soumettre tout à son empire. » Elle allait continuer sur le même ton quand on entendit crier « Voici le calife, voici le calife !» Aussitôt toutes les portières furent tirées, les esclaves se prosternèrent en double rang et le pauvre petit Gulchenrouz se cacha sous une estrade. D'abord, on vit paraître une file d'eunuques noirs, traînant après eux de longues robes de mousseline brochées d'or. Ils tenaient dans leurs mains des cassolettes qui répandaient un doux parfum de bois d'aloès. Ensuite marchait gravement Baba Balouk, qui n'était pas trop content de la visite et branlait la tête. Vatek, habillé magnifiquement, le suivait de près. Sa démarche était noble et aisée. On aurait admiré sa bonne mine, quand même il n'eût pas été le souverain du monde. Il s'approcha de Nouronnihar et, lorsqu'il eut fixé ses yeux rayonnants, qu'il avait seulement entrevus, il fut tout hors de lui. Nouronnihar s'en aperçut et elle les baissa aussitôt. Mais son trouble augmentait sa beauté et enflammait davantage le cœur de Vatek. Baba Balouk, connaisseur en pareilles affaires, vit qu'à mauvais jeu il fallait faire bonne mine et fit signe à tout le monde de se retirer. Il parcourut tous les coins de la salle pour voir si personne ne s'y était caché et vit des pieds qui sortaient du bas de l'estrade. Baba Balouk les tira à lui sans cérémonie et, voyant que c'était ceux de Gulchenrouz, il le mit sur ses épaules et l'emporta en lui faisant mille odieuses caresses. Le petit criait et se débattait, ses joues devinrent rouges comme la fleur de grenade, et ses yeux humides étincelaient de dépit. Dans son désespoir, il jeta un regard si significatif à Nouronnihar que le calife s'en aperçut et dit « Serait-ce là votre Gulchenrouz ?»« Souverain du monde, répondit-elle, épargnez mon cousin dont l'innocence et la douceur ne méritent pas votre colère. » « Rassurez-vous, reprit Vatek en souriant, il est en bonne main. Baba Balouk aime les enfants et n'est jamais sans dragée ni confiture. » La fille de Fakhreddin, toute confondue, laissa emporter Gulchenrouz sans dire une parole. Cependant, le mouvement du sein de Nouronnihar découvrait l'agitation de son cœur. Vatek en était transporté et se livrait à tout le délire de sa plus vive passion. On ne lui opposait plus qu'une faible résistance lorsque l'émir, entrant subitement, se jeta aux pieds du calife, le front contre terre. « Commandeur des croyants, lui dit-il, ne vous abaissez pas jusqu'à votre esclave. » « Non, émir, repartit Vatek, je l'élève plutôt jusqu'à moi. Je la déclare mon épouse et la gloire de votre famille s'étendra de génération en génération. » « Hélas, seigneur, répondit Fakhreddin en s'arrachant quelques poils de la barbe, abrégez les jours de votre fidèle serviteur avant qu'il manque à sa parole. Nouronnihar est solennellement promise à Gulchenrouz, le fils de mon frère Ali Hassan. Leurs cœurs sont unis, la foi est réciproquement donnée. On ne saurait violer des engagements aussi sacrés. » « Quoi ? Répliqua brusquement le calife. « Tu veux livrer cette beauté divine à un mari encore plus femme qu'elle ? Tu crois que je laisserai flétrir ses charmes sous des mains si lâches et si faibles? Non, c'est dans mes bras qu'elle doit passer sa vie. Tel est mon plaisir. Retire-toi et ne trouble pas cette nuit que je consacre au culte de ses attraits. » L'émir, outré, tira alors son sabre, le présenta à Vatek et, tendant son col, il lui dit d'un ton ferme « Seigneur, frappez votre hôte infortuné. Il a trop vécu puisqu'il a le malheur de voir que le vicaire du prophète viole les saintes lois de l'hospitalité. » Nourounihar, qui était restée interdite pendant toute cette scène, ne put soutenir davantage le combat des diverses passions qui bouleversaient son âme. Elle tomba en défaillance et Vatek, aussi effrayé pour sa vie que furieux de trouver de la résistance, dit à Fakhreddin « Secourez votre fille !» Et il se retira en lui lançant son terrible regard. Le malheureux émir tomba sur-le-champ à la renverse, baigné dans une sueur mortelle. Gulchenrouz, de son côté, s'était échappé des mains de Baba Balouk et revenait en ce moment lorsqu'il vit Fakhreddin et sa fille étendus par terre. Il cria au secours tant qu'il put. Ce pauvre enfant tâchait de ranimer Nourounihar par ses caresses. Pâle et haletant, il ne cessait de baiser la bouche de son amante. Enfin, la douce chaleur de ses lèvres la fit revenir, et bientôt elle reprit tous ses sens. Lorsque Fakhreddin fut remis de l'œillade du calife, il se mit sur son séant, et, regardant autour de lui pour voir si ce dangereux prince était sorti, il fit appeler Shaban et Sut le Mémé, et, les tirant à part, il leur dit « Mes amis, au grand mot, il faut des remèdes violents. Le calife porte l'horreur et la désolation dans ma famille. Je ne saurais résister à sa puissance. Un autre de ses regards me mettrait au tombeau. Qu'on me donne de cette poudre assoupissante qu'un derviche apporta de l'Arakan. J'en donnerai à ces deux enfants une dose dont l'effet dure 3 jours. Le calife les croira morts, alors, feignant de les enterrer, nous les porterons dans la caverne de la vénérable Meïmouné à l'entrée du grand désert de sable, près de la cabane de Ménin. Et, quand tout le monde sera retiré, vous, Shaban, avec 4 eunuques choisis, vous les transporterez près du lac où vous aurez fait porter des provisions pour 1 mois. 1 jour pour la surprise, 5 pour les pleurs, 15 pour les réflexions, et le reste pour se préparer à se remettre en marche. Voilà, selon mon calcul, tout le temps que Vatek prendra, et j'en serai quitte. » L'idée est bonne, dit Sut le Mémé. Il en faut tirer tout le parti possible. Nourounihar me paraît avoir du goût pour le calife. Soyez sûr qu'aussi longtemps qu'elle le saura ici, malgré tout son attachement pour Gulchenrouz, nous ne pourrons pas la faire tenir dans ces montagnes. Persuadons-lui qu'elle est réellement morte, ainsi que Gulchenrouz, et que tous deux ont été transportés dans ces rochers pour y expier les petites fautes que l'amour leur a fait commettre. Nous leur dirons que nous nous sommes tués de désespoir et vos petits nains, qu'ils n'ont jamais vus, leur paraîtront des personnages extraordinaires. Les sermons qu'ils leur feront produiront un grand effet sur eux, et je gage que tout se passera le mieux du monde. « J'approuve ton idée, » dit Fakhreddin. « Mettons la main à l'œuvre. » Aussitôt, on alla chercher la poudre. On la mit dans du sorbet, et Nourounihar et Gulchenrouz, sans se douter de rien, avalèrent le mélange. 1 heure après, ils sentirent des angoisses et des palpitations de cœur. Un engourdissement universel s'empara d'eux. Ils se levèrent et, montant l'estrade avec peine, ils s'étendirent sur le sofa. « Réchauffe-moi, ma chère Nourounihar, » disait Gulchenrouz en la tenant étroitement embrassée. « Mets ta main sur mon cœur, il est de glace. Ah, tu es aussi froide que moi. Le calife nous aurait-il tués tous les deux avec son terrible regard ?»« Je meurs, » repartit Nourounihar d'une voix éteinte. « Serre-moi, que du moins j'exhale mon âme sur tes lèvres. » Le tendre Gulchenrouz poussa un profond soupir, leurs bras tombèrent, et ils n'en dirent pas davantage. Tous les deux restèrent comme morts. Alors de grands cris retentirent dans le harem. Shaban et Sut le Mémé jouèrent les désespérés avec beaucoup d'adresse. L'émir, fâché d'en venir à ses extrémités, faisait pour la première fois l'épreuve de la poudre et n'avait pas besoin de contrefaire l'affligé. On avait éteint les lumières. 2 lampes jetaient une triste lueur sur le visage de ces belles fleurs qu'on croyait fanées dans le printemps de leur vie. Et les esclaves, qui s'étaient rassemblés de toutes parts, restèrent immobiles au spectacle qui s'offrait à leurs yeux. On apporta les vêtements funèbres, on lava leurs corps avec de l'eau de rose, on les revêtit de simarres plus blanches que l'albâtre, et leurs belles tresses, nouées ensemble, furent parfumées des odeurs les plus exquises. On allait poser sur leur tête 2 couronnes de jasmin, leur fleur favorite, lorsque le calife, qui venait d'apprendre cet événement tragique, arriva. Il était aussi pâle et hagard que les goules qui errent la nuit dans les sépulcres. Dans cette circonstance, il s'oublia lui-même et le monde entier. Il se précipita au milieu des esclaves, se prosterna au pied de l'estrade et, se frappant la poitrine, il se qualifiait d'atroce meurtrier et faisait mille imprécations contre lui-même. Mais, lorsque d'une main tremblante il eut levé le voile qui couvrait le visage blême de Nourounihar, il jeta un grand cri et tomba comme mort. Le chef des eunuques fit d'horribles grimaces et l'emporta sur le champ en disant « Je l'avais bien prévu que Nourounihar lui jouerait quelque mauvais tour. » Dès que le calife fut éloigné, l'émir commença les cercueils et fit défendre l'entrée du harem. On ferma toutes les fenêtres, on brisa tous les instruments de musique et les imams commencèrent à réciter des prières. Les pleurs et les lamentations redoublèrent dans la soirée qui suivit ce jour lugubre. Quant à Vatek, il gémissait en silence. On avait été obligé d'assoupir les convulsions de sa rage et de sa douleur en lui donnant des remèdes calmants. À la pointe du jour suivant, on ouvrit les grands battants des portes du palais et le convoi se mit en marche pour se rendre à la montagne. Les tristes cris de Leïla et Leïla parvinrent jusqu'au calife. Il voulut à toute force se faire des blessures et suivre la pompe funèbre. Jamais on n'aurait pu l'en dissuader si sa grande faiblesse lui avait permis de marcher. Mais il tomba au premier pas et l'on fut obligé de le mettre au lit où il resta plusieurs jours dans un état d'insensibilité qui faisait pitié même à l'émir. Quand la procession fut arrivée à la grotte de Meïmouné, Chaban et Sutlememé congédièrent tout le monde. Les quatre eunuques affidés restèrent avec eux. Et, après s'être reposé quelques moments auprès des cercueils auxquels on avait laissé de l'air, ils les firent porter sur les bords d'un petit lac bordé d'une mousse grisâtre. Ce lieu était le rendez-vous des hérons et des cigognes qui y pêchaient continuellement des petits poissons bleus. Les nains, instruits par l'émir, ne tardèrent pas à s'y rendre, et avec l'aide des eunuques, ils construisirent des cabanes de cannes et de joncs, ouvrages dans lesquels ils réussissaient à merveille. Ils élevèrent aussi un magasin pour les provisions, un petit oratoire pour eux-mêmes et une pyramide de bois. Elle était faite de bûches arrangées avec beaucoup d'exactitude et servait à l'entretien du feu, car il faisait froid dans les creux de ces montagnes. Vers le soir, on alluma deux grands feux sur le bord du lac. On tira les deux jolis corps de leur cercueil et ils furent posés doucement dans la même cabane, sur un lit de feuilles sèches. Les deux nains se mirent à réciter l'Alcoran avec leurs voix claires et argentines. Chaban et Sutlememé se tenaient debout à quelque distance et attendaient avec beaucoup d'inquiétude que la poudre eût fait son effet. Enfin, Nourounihar et Gulchenrouz étendirent faiblement les bras et, ouvrant les yeux, ils regardèrent avec le plus grand étonnement tout ce qui les entourait. Ils essayèrent même de se lever, mais les forces leur manquant, ils retombèrent sur leur lit de feuilles. Aussitôt, Sutlememé leur fit avaler d'un cordial dont l'émir l'avait muni. Alors Gulchenrouz se réveilla tout à fait, éternua bien fort, et se leva avec un élan qui marquait toute sa surprise. Lorsqu'il fut hors de la cabane, il huma l'air avec une extrême avidité et s'écria « Je respire, j'entends des sons, je vois un firmament semé d'étoiles. J'existe encore !» À ces accents chéris, Nourounihar se débarrassa des feuilles et courut serrer Gulchenrouz dans ses bras. Les longues simars dont ils étaient revêtus, leurs couronnes de fleurs et leurs pieds nus, furent les premières choses qui frappèrent ses regards. Elle cacha son visage dans ses mains pour réfléchir. La vision du bain enchanté, le désespoir de son père et surtout la figure majestueuse de Vatek lui roulaient dans l'esprit. Elle se ressouvenait d'avoir été malade et mourante aussi bien que Gulchenrouz, mais toutes ces images étaient confuses dans sa tête. Ce lac singulier, ses flammes réfléchies dans les eaux paisibles, les pâles couleurs de la terre, ses cabanes bizarres, ses joncs qui se balançaient tristement d'eux-mêmes, ces cigognes, dont le cri lugubre se mêlait aux voix des nains, tout la convainquit que l'ange de la mort lui avait ouvert le portail de quelque nouvelle existence. Gulchen Rouz, de son côté, dans des transes mortelles, s'était collé contre sa cousine. Il se croyait aussi dans le pays des fantômes et s'effrayait du silence qu'elle gardait. « Parle, lui dit-il enfin, où sommes-nous? Vois-tu ces spectres qui remuent cette braise ardente? Serait-ce Monkir et Nekir qui vont nous y jeter? Le fatal pont traverserait-il ce lac dont la tranquillité nous cache peut-être un abîme d'eau où nous ne cesserons de tomber pendant des siècles ?»« Non, mes enfants, leur dit Sutlememe en s'approchant d'eux. Rassurez-vous, l'ange exterminateur qui a conduit nos âmes après les vôtres nous a assuré que le châtiment de votre vie molle et voluptueuse sera borné à passer une longue suite d'années dans ce triste lieu où le soleil se montre à peine, où la terre ne produit ni fruits ni fleurs. « Voilà nos gardiens, » continua-t-elle en montrant les nains. « Ils pourvoiront à nos besoins, car des âmes aussi profanes que les nôtres tiennent encore un peu à leur grossière existence. Pour tout mets, vous ne mangerez que du riz, et votre pain sera trempé dans les brouillards qui couvrent sans cesse ce lac. » À cette triste perspective, les pauvres enfants fondirent en pleurs. Ils se prosternèrent devant les nains qui, soutenant parfaitement bien leur personnage, leur firent, selon la coutume, un discours bien beau et bien long sur le chameau sacré qui devait, dans quelques milliers d'années, les porter au paradis des fidèles. Le sermon fini, on fit des ablutions, on loua Allah et le prophète, on soupa bien maigrement, et on s'en retourna aux feuilles sèches. Nourunihar et son petit cousin furent bien aises de trouver que les morts couchaient dans la même cabane. Comme ils avaient assez dormi, ils s'entretinrent le reste de la nuit de ce qui s'était passé, et cela toujours en s'embrassant de peur des esprits. Le lendemain, au matin, qui fut bien sombre et pluvieux, les nains montèrent sur les longues perches plantées en guise de minaret et appelèrent à la prière. Toute la congrégation s'assembla. Sutlememe, Chaban, les quatre eunuques, quelques cigognes qui s'ennuyaient de la pêche et les deux enfants. Ceux-ci s'étaient traînés languissamment hors de leur cabane et, comme leurs esprits étaient montés sur un ton mélancolique et tendre, ils firent leur dévotion avec ferveur. Après cela, Gulchen Rouz demanda à Sutlememe et aux autres comment ils avaient fait de mourir si à propos pour eux. « Nous nous sommes tués de désespoir de votre mort, » répondit Sutlememe. Nourunihar, qui malgré tout ce qui s'était passé, n'avait pas oublié sa vision, s'écria. « Et le calife, serait-il mort de douleur? Viendra-t-il ici ?» Les nains avaient le mot et répondirent gravement. « Vatek est damné, sans retour. »« Je le crois bien, » s'écria Gulchen Rouz, « et j'en suis charmé, car je pense que c'est son horrible yad qui nous a envoyé ici manger du riz et entendre des sermons. » Une semaine s'écoula à peu près de la même manière sur les bords du lac. Nourunihar pensait aux grandeurs que son ennuyeuse mort lui avait fait perdre, et Gulchen Rouz faisait des paniers de joncs avec les nains qui lui plaisaient infiniment. Pendant que cette scène d'innocence se passait au sein des montagnes, le calife en donnait une autre chez l'émir. Il n'eut pas plutôt repris l'usage de ses sens qu'avec une voix qui fit tressaillir Baba Balou qu'il s'écria. « Perfide Jaour, c'est toi qui as tué ma chère Nourunihar. Je renonce à toi et demande pardon à Mahomet. Il me l'aurait conservé si j'avais été plus sage. Allons, qu'on me donne de l'eau pour faire mes ablutions et que le bon Fakhreddin vienne ici pour que je me réconcilie avec lui et que nous fassions la prière. Après cela, nous irons ensemble visiter le sépulcre de l'infortuné Nourunihar. Je veux me faire ermite et passer mes jours sur cette montagne pour y expier mes crimes. » « Et que mangerez-vous là ?» lui dit Baba Balouk. « Je n'en sais rien, » répondit Vatek. « Je te le dirai quand j'aurai appétit, ce qui ne m'arrivera, je crois, de longtemps. » L'arrivée de Fakhreddin interrompit cette conversation. Dès que Vatek le vit, il lui sauta au col et le baigna de ses larmes en lui disant des choses si pieuses que l'émir en pleurait de joie et se félicitait tout bas de l'admirable conversion qu'il venait d'opérer. On comprend qu'ils n'osaient pas s'opposer au pèlerinage de la montagne. Ils se mirent donc chacun dans leur litière et partirent. Malgré l'attention avec laquelle on veillait sur le calife, on ne put empêcher qu'il ne se fît quelques égratignures sur le lieu où l'on disait que Nourunihar était enterrée. L'on eut grand-peine à l'en arracher, et il jura solennellement qu'il y reviendrait tous les jours, ce qui ne plut pas trop à Fakhreddin. Mais il se flattait que le calife ne se hasarderait pas plus avant et qu'il se contenterait de faire ses prières dans la caverne de Meymouné. D'ailleurs, le lac était si caché dans les rochers qu'il ne croyait pas possible de le trouver. Cette sécurité de l'émir était augmentée par la conduite de Vatek. Il tenait bien exactement sa résolution et revenait de la montagne si dévot et si contrit que tous les barbons en étaient en extase. Nouronihar, de son côté, n'était pas tout à fait aussi contente. Quoiqu'elle aimât Gulchenrouz et qu'on la laissât libre avec lui afin d'augmenter sa tendresse, elle le regardait comme un joujou qui n'empêchait pas que l'escarboucle de Djamchid ne fût très désirable. Elle avait même quelquefois des doutes sur son état et ne pouvait pas comprendre que les morts eussent tous les besoins et les fantaisies des vivants. Un matin, pour s'en éclaircir, elle se leva doucement d'auprès de Gulchenrouz pendant que tout dormait encore, et, après lui avoir donné un baiser, elle suivit le bord du lac et vit qu'il se dégorgeait sous un rocher dont la cime ne lui parut pas inaccessible. Aussitôt, elle y grimpa du mieux qu'elle put, et, voyant le ciel à découvert, elle se mit à courir comme une biche qui fuit le chasseur. Quoiqu'elle sautât avec la légèreté de l'antilope, elle fut pourtant obligée de s'asseoir sur quelque tamaris pour reprendre haleine. Elle y faisait ses petites réflexions et croyait reconnaître les lieux, quand tout à coup, Vatek se présenta à sa vue. Ce prince, inquiet et agité, avait devancé l'aurore. Lorsqu'il vit Nouronihar, il resta immobile. Il n'osait approcher de cette figure tremblante et pâle, mais pourtant encore charmante à voir. Enfin, Nouronihar, d'un air moitié content et moitié affligé, leva ses beaux yeux sur lui et lui dit « Seigneur, vous venez donc manger du riz avec moi et entendre des sermons ?»« Ombre chérie !» s'écria Vatek, « vous parlez ! Vous avez toujours la même forme élégante, le même regard rayonnant. Seriez-vous aussi palpable ?» En disant ces mots, il l'embrasse de toute sa force en répétant sans cesse « Mais voici de la chair, elle est animée d'une douce chaleur. Que veut dire ce prodige ? » Nouronihar répondit modestement. « Vous savez, Seigneur, que je mourus la nuit même où vous m'honorâtes de votre visite. Mon cousin dit que ce fut d'une de vos œillades, mais je n'en crois rien, elles ne me parurent pas si terribles. Gulchenrouz mourut avec moi, et nous fûmes tous les deux transportés dans un pays bien triste et où l'on fait très maigre chair. » Si vous êtes mort aussi et que vous veniez nous rejoindre, je vous plains, car vous serez étourdis par les nains et les cigognes. D'ailleurs, il est fâcheux pour vous et pour moi d'avoir perdu les trésors du palais souterrain qui nous étaient promis. » À ce nom de palais souterrain, le calife suspendit ses caresses, qui avaient déjà été assez loin, pour se faire expliquer ce que Nouronihar voulait dire. Alors elle lui raconta sa vision, ce qu'il avait suivi et l'histoire de sa prétendue mort. Elle lui dépeignait le lieu d'expiation d'où elle s'était échappée d'une manière qui l'aurait fait rire s'il n'avait pas été très sérieusement occupé. Elle n'eut pas plutôt cessé de parler que Vatek, la reprenant dans ses bras, lui dit « Allons, lumière de mes yeux, tout est dévoilé. Nous sommes tous deux pleins de vie. Votre père est un fripon qui nous a trompés pour nous séparer. Et le Giaour, qui, à ce que je comprends, veut nous faire voyager ensemble, ne vaut guère mieux. Ce ne sera pas du moins de longtemps qu'il nous tiendra dans son palais de feu. J'attache plus de valeur à votre belle personne qu'à tous les trésors des sultans préadamites. Et je veux la posséder à mon aise et en plein air pendant bien des lunes avant que d'aller m'enfouir sous terre. Oubliez ce petit sot de Gulchenrouz et... » « Ah, seigneur, ne lui faites point de mal !» interrompit Nouronihar. « Non, non, reprit Vatek, je vous ai déjà dit de ne rien craindre pour lui. Il est trop pétri de lait et de sucre pour que j'en sois jaloux. Nous le laisserons avec les nains, qui, par parenthèse, sont mes anciennes connaissances. C'est une compagnie qui lui convient mieux que la vôtre. Au reste, je ne retournerai plus chez votre père. Je ne veux pas l'entendre, lui et ses barbons, me criailler aux oreilles que je viole les lois de l'hospitalité, comme si ce n'était pas un plus grand honneur pour vous d'épouser le souverain du monde qu'une petite fille habillée en garçon. » Nouronihar n'eut garde de désapprouver un discours aussi éloquent. Elle aurait seulement voulu que l'amoureux monarque eût marqué un peu plus d'ardeur pour l'escarboucle de Jamshid. Mais elle pensa que cela viendrait en son temps et demeura d'accord de tout avec la soumission la plus engageante. Quand le calife le jugea à propos, il appela Baba Balouk, qui dormait dans la caverne de Maïmouné, et rêvait que le fantôme de Nourounihar l'avait remis sur l'escarpolette et lui donnait un tel branle que tantôt il planait au-dessus des montagnes et tantôt touchait aux abîmes. À la voix de son maître, il s'éveilla en sursaut, courut tout essoufflé et pensa tomber à la renverse lorsqu'il crut voir le spectre auquel il venait de rêver. « Ah, Seigneur !» s'écria-t-il en reculant de 10 pas et mettant sa main devant ses yeux. « Est-ce que vous déterrez les morts ? Faites-vous aussi le métier de goule ? Mais n'espérez pas de manger cette Nourounihar. Après ce qu'elle m'a fait souffrir, elle sera assez méchante pour vous manger vous-même. »« Cesse de faire l'imbécile !» dit Vatek. « Tu seras bientôt convaincu que celle que je tiens dans mes bras est Nourounihar, bien fraîche et très vivante. Va faire dresser mes tentes dans une vallée que j'ai remarquée ici près. » Je veux y fixer mon habitation avec cette belle tulipe dont je ranimerai les couleurs. Fais en sorte de nous pourvoir de tout ce qu'il faut pour mener une vie voluptueuse jusqu'à nouvel ordre. » Les nouvelles d'un incident aussi fâcheux parvinrent bientôt aux oreilles de l'émir. Au désespoir de ce que son stratagème n'avait pas réussi, il s'abandonna à la douleur et se barbouilla dûment le visage avec de la cendre. Ses fidèles barbons en firent autant et son palais tomba dans un affreux désordre. Tout était négligé, on ne recevait plus les voyageurs, on ne faisait plus d'emplâtre. Et, à la place de l'activité charitable qui régnait dans cet asile, ceux qui l'habitaient n'y montraient plus que des visages d'une coudée de long. Ce n'était que gémissements et barbouillages. Cependant, Gulchenrouz était restée pétrifiée en ne trouvant plus sa cousine. Les nains n'étaient pas moins surpris que lui. Sutlememe seul, plus fine que tous, soupçonna d'abord ce qui était arrivé. On amusa Gulchenrouz avec la belle espérance qu'il retrouverait Nourounihar dans quelque endroit des montagnes, où la terre jonchée de fleurs d'orange et de jasmin offrirait des lits plus agréables que ceux des cabanes, où l'on chanterait au son des luttes et où l'on irait à la chasse des papillons. Sutlememe était dans le fort de ses descriptions quand un des 4 eunuques l'attira à part, lui éclaircit l'histoire de la fuite de Nourounihar et lui remit les ordres de l'émir. Aussitôt, elle tint conseil avec Shaban et les nains. On plia bagage, on se mit dans une chaloupe et on vogua tranquillement. Gulchenrouz s'accommodait de tout, mais lorsqu'on arriva à l'endroit où le lac se perdait sous la voûte du rocher, que la barque y fut entrée et que Gulchenrouz se vit dans une parfaite obscurité, il fut saisi d'une peur horrible et jeta des cris perçants, car il croyait qu'on allait le damner entièrement pour avoir fait trop le vivant avec sa cousine. Pendant ce temps, le calife et celle qui régnait sur son cœur filaient des jours heureux. Baba Balouk avait fait dresser les tentes et fermer les 2 entrées de la vallée avec des paravents magnifiques, doublé de toiles des Indes et gardé par des esclaves éthiopiens, le sabre à la main. Pour maintenir le gazon de cette belle enceinte dans une fraîcheur perpétuelle, des eunuques ne cessaient d'en faire le tour avec des arrosoirs de vermeil. L'air, auprès du pavillon impérial, était sans cesse agité par le mouvement des éventails. Un jour tendre qui passait au travers des mousselines éclairait ce lieu de volupté, et le calife y jouissait en plein des charmes de Nourounihar. Enivré de délices, il écoutait avec transport sa belle voix et les accords de son luth. De son côté, elle était ravie d'entendre les descriptions qu'il lui faisait de Samara et de sa tour remplie de merveilles. Elle se plaisait surtout à lui faire répéter l'aventure de la boule et celle de la crevasse où le giaour se tenait auprès du portail d'ébène. Le jour s'écoulait dans ses entretiens et la nuit ses amants se baignaient ensemble dans un grand bassin de marbre noir qui relevait admirablement la blancheur de Nourounihar. Baba Balouk, chez qui cette belle était rentrée en grâce, prenait soin que leur repas fût servi avec la plus grande délicatesse. C'était toujours quelque mets nouveau et il fit chercher à Shiraz un vin pétillant et délicieux encavé avant la naissance de Mahomet. On cuisait dans de petits fours pratiqués dans le roc des pains au lait que Nourounihar pétrissait de ses mains délicates, ce qui leur donnait une saveur si forte au gré de Vatek qu'il en oubliait tous les ragoûts que ses autres femmes lui avaient faits. Aussi ces pauvres délaissées se mouraient-elles de chagrin chez l'émir. La sultane Dilara, qui jusqu'alors avait été la favorite, prenait cette négligence à cœur avec une énergie qui était dans son caractère. Dans le cours de sa faveur, elle avait été imbue des idées extravagantes de Vatek et brûlait de voir les tombeaux d'Istakhar et le palais des 40 colonnes. Élevée d'ailleurs parmi les mages, elle se réjouissait de voir le calife prêt à s'adonner au culte du feu. Ainsi, la vie voluptueuse et fainéante qu'il menait avec sa rivale l'affligeait doublement. La piété passagère de Vatek lui avait donné de vives alarmes. Ceci était pis encore. Elle prit donc le parti d'écrire à la princesse Karatis pour lui apprendre que tout allait mal, qu'on avait manqué net aux conditions du parchemin, qu'on avait mangé, couché et fait vacarme chez un vieil émir dont la sainteté était fort redoutable, et qu'enfin il n'y avait plus d'apparence qu'on n'eût jamais les trésors des sultans préadamites. Cette lettre fut confiée à deux bûcherons qui coupaient du bois dans une des grandes forêts de la montagne et qui, connaissant les routes les plus courtes, arrivèrent dans 10 jours à Samara. La princesse Karatis jouait aux échecs avec Morakanabad quand les messagers arrivèrent. Depuis quelques semaines, elle avait abandonné les hautes régions de sa tour parce que tout lui semblait en confusion parmi les astres lorsqu'elle les consultait pour son fils. Elle avait beau répéter ses fumigations et s'étendre sur les toits dans l'espérance d'avoir des visions mystiques, elle ne rêvait que pièces de brocart, bouquets et autres niaiseries pareilles. Tout cela l'avait jetée dans un abattement dont toutes les drogues qu'elle composait ne pouvaient pas la retirer, et sa dernière ressource était Morakanabad, bonhomme, plein d'une honnête confiance, mais qui, dans sa compagnie, ne se trouvait pas sur des roses. Comme personne ne savait des nouvelles de Vatek, 1000 histoires ridicules se répandaient sur son compte. On conçoit donc avec quelle vivacité Karatis décacheta la lettre et quelle fut sa rage lorsqu'elle apprit la lâche conduite de son fils. « Ah ! Dit-elle, je périrai où il pénétrera dans le palais du feu, que je meure dans les flammes et que Vatek règne sur le trône de Soleiman. » En parlant ainsi, elle fit la pirouette d'une manière si magique et si effroyable que Morakanabad en recula de terreur. Elle commanda de préparer son grand chameau à Boufaki et de faire venir la hideuse Nerkès et l'impitoyable Kafour. « Je ne veux d'autre train, dit-elle au vizir. Je vais pour affaires pressantes, ainsi trêve de parade. Vous aurez soin du peuple. Plumez-le bien dans mon absence, car nous dépensons beaucoup et on ne sait pas ce qui arrivera. »